Super. Waouh! Bonjour! On va le refaire une fois tous ensemble. Bonjour! Ah, c'est chouette, c'est super. Écoutez, on se réjouit d'être là avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une joie pour nous d'être là. Et c'est, je voulais juste vous partager quelque chose. Quand je suis rentré pour la première fois dans l'église hier, j'ai vraiment été impressionné par la peinture derrière. Voilà. Et je me sens un petit peu petit. Parce que si je vois le Seigneur qui est en train de partager le repas là, et je suis juste devant lui, alors c'est vrai que c'est une impression particulière. Mais je pense que vous avez une magnifique peinture qui nous rappelle à quel point le Seigneur est bon pour nous et à quel point il a fait ce sacrifice incroyable pour nous. Et ça m'encourage aussi à ce matin vraiment partager avec vous en toute humilité. Alors c'est vrai qu'hier, on a commencé déjà un petit peu à discuter avec les familles qui étaient présentes sur ce thème de la famille et de la transmission de la foi. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager et vous interpeller plutôt. Encore une fois, c'est vraiment avec toute humilité que je suis là devant vous. Je vois dans l'assemblée, dans l'audience, beaucoup de gens qui ont probablement beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont probablement déjà élevé des enfants, qui ont déjà vu deux ou trois générations autour d'elles. Donc, vraiment, que vous vous sentiez aussi interpellé par ce que je vais vous dire, mais pas interpellé dans le sens repris, mais plutôt que ce soit quelque chose qui vous incite aussi à continuer ce travail et cette réflexion autour de ce thème. Alors voilà, ce matin, on va parler de la famille. Rachel a un petit peu commencé à développer cela avec les enfants. Alors c'est vrai que ça commence par la famille, dans le contexte de la famille. Pour peut-être certains d'entre vous, cette photo ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Cet homme, Yoni, qui se situe ici, est un homme que je n'ai pas connu. C'est le grand-père de Rachel qui a élevé quatre enfants. Et ces quatre enfants ont eux-mêmes donné au total 16 petits-enfants et je ne sais combien de petits-petits-enfants. Cet homme, par le choix qu'il a fait dans sa vie, a eu une influence sur aujourd'hui sur plus de 80 personnes. Ce choix qu'il a fait de décider de lire la parole de Dieu chaque jour, de la méditer, de la partager, de la vivre. Que cette richesse ne soit pas quelque chose qui soit gardé uniquement dans son foyer, mais que ça devienne quelque chose de vécu. Alors comment la foi s'est-elle transmise? Comment a-t-elle été passée d'une génération à une autre? Comment être sûr que nos enfants vont glorifier le Seigneur et être au ciel avec nous un jour. Mon plus grand désir en tant que papa, c'est que mes enfants connaissent cette parole, qu'ils la méditent, qu'ils sachent l'importance que Dieu a pour moi. Y a-t-il quelque chose de plus important en tant que parents que nous pouvons faire pour aider nos enfants à aller dans cette direction? Devant Dieu, est-ce que j'ai une responsabilité? Est-ce que j'ai une responsabilité devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a confié? Quel est ce trésor qu'il m'a donné? Ce trésor, ce sont nos enfants. Et il nous les a confiés. Alors mes frères et sœurs, je vous invite tout d'abord à vous plonger dans la parole. Cette parole que Dieu nous a confiée. Cette parole que Dieu nous a apportée depuis maintenant plus de 4000 ans. Cette parole qui nous a invités à connaître, à méditer. Cette parole qui doit être une parole vivante, vécue, connue, mais aussi transmise. Glorifier Dieu, notre responsabilité, aimer Jésus. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit d'abord que cela commence à la maison. On a déjà parlé de cela hier un petit peu. La Bible nous dit qu'en tant que parents, nous avons une responsabilité. Je vous invite à lire quelques passages de la Bible. Dans la Genèse, au chapitre 18, versets 19 17 à 19, pardon. Genèse 18, 17 à 19. Le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham pour qu'il enseigne à ses enfants les voies du Seigneur. On retrouve aussi dans le passage de Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Seulement prenez bien garde, veillez très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoins. Qu'à aucun moment de votre vie, ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Et enfin, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. » Une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. La Bible est claire, mes frères et sœurs. Ce mandat que Dieu nous a confié est retranscrit dans ces textes. Dieu, notre Père éternel, a confié un mandat à nous, parents, grands-parents. Nous sommes responsables de l'enseignement de nos enfants à la maison. Laissez-moi le répéter à nouveau. Nous sommes responsables de l'enseignement de nos enfants à la maison. Ce qui est intéressant de connaître et de voir par rapport à cela, ce sont un certain nombre d'événements que l'histoire nous montre. Au début du christianisme, on ne peut que constater l'importance de la transmission de la foi. Par exemple, au temps de Paul, regardez les premiers chrétiens, regardez comment les premières églises ont été construites. Elles ont été construites dans le contexte de la famille. J'aimerais vous inviter à lire un passage dans Actes 16, versets 25 à 34. Actes 16, versets 25 à 34. Ce passage m'a interpellé parce qu'il s'est passé quelque chose avec ce geôlier de prison. Il s'est passé quelque chose parce qu'il a pris une décision. Je vous invite à lire ce passage. « Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il leur lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Lui et toute sa famille. Une décision, un homme. Au temps des Huguenots, par exemple, certains d'entre vous se souviennent de l'édit de Nantes, mais aussi de la révocation de l'édit de Nantes en France, la destruction des temples, l'interdiction de faire des cultes, les écoles qui étaient fermées, le choix qui était donné aux pasteurs de partir de ce pays ou d'être tués. Et pourtant, nous sommes encore là aujourd'hui.
pour parler de cette foi qui s'est transmise de génération en génération, de cette bonne œuvre de Dieu pour nous, de sa grâce pour nous. Au temps des Mennonites, où il n'y avait pas d'église, j'entends et j'aime entendre mon beau-père Bernard parler de cela, de ces fermes Mennonites, où la foi s'est transmise dans les familles. Pas de culte le dimanche, pas d'école du dimanche. Madeleine me raconte souvent qu'elle a même elle-même participé simplement à la mise en place de l'école du dimanche dans l'église où elle était. Et pourtant, la foi ne s'est pas éteinte. Vous tous, aujourd'hui, êtes un exemple de cela. La foi s'est transmise comme un héritage précieux, important, essentiel. Malgré les destructions, malgré le manque de programme d'école du dimanche, malgré le fait que les églises n'étaient pas structurées, mais qu'elles étaient des églises de maison. Et j'ai entendu récemment des remises en cause du format de nos églises. On a besoin d'églises plus grandes, on a besoin d'églises mieux structurées, mieux organisées, qui donnent plus de choses. Bien sûr, mais on a besoin aussi que dans nos églises, on ait des familles fortes, parce que c'est dans le contexte de la famille que ce message sera transmis. Dans le contexte, dans l'intimité de nos familles, dans nos relations entre nous, dans cette chose qui est vécue. Mon côté scientifique me pousse à vous partager deux enquêtes. Deux enquêtes qui ont eu lieu, dont une en Suisse notamment, en 2004. Ça aurait pu être en 2014 d'ailleurs, entre parenthèses. Quelle a été la chose la plus importante et le facteur le plus critique qui ont fait qu'une génération a reçu un enseignement? Ils ont découvert que le facteur prédominant et critique, c'était la pratique religieuse du père ou de la mère. La pratique religieuse du père ou de la mère. Pas la participation à une église, pas la participation à un groupe de jeunes, mais la pratique religieuse du père ou de la mère. On a demandé aussi à des lycéens, donc des jeunes qui étaient beaucoup plus âgés, qui a eu le plus d'influence dans votre vie? 75% des jeunes ont répondu leur père, 69% leur mère. Ensuite vient le pasteur, le groupe de jeunes, les amis. Le lieu d'influence le plus important pour nos jeunes, pour nos familles, c'est le contexte de la famille, c'est ce qui se passe à la maison. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que ces enquêtes concernent aussi des jeunes. Et on aurait tendance à penser que ces jeunes qui ont perdu ce contact avec leur famille n'ont plus rien à faire de ce qui leur a été dit. Bien non, au contraire, ils continuent à se raccrocher et à avoir en mémoire ce qui leur a été dit. J'aimerais vous lire une méditation que j'ai trouvée assez choquante la première fois que je l'ai lue. Mais j'ai essayé d'y réfléchir et de me dire, mais pourquoi ce théologien a dit cela? C'est un théologien américain qui a dit il y a quelques années, une majorité des églises sont actuellement coupables de perpétuer un processus malsain et non biblique où l'église usurpe le rôle de la famille et crée une dépendance malheureuse, parfois exclusive, à l'église en ce qui concerne l'alimentation spirituelle de l'enfant. Cet homme, c'est Georges Barna, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un philosophe chrétien qui a dit que l'église usurpait le rôle de la famille. Ça ne veut pas dire que l'église n'a pas de place. Ça ne veut pas dire que l'église n'a pas un rôle. Mais ça veut dire qu'on ne comprend pas que la responsabilité commence d'abord à la maison. Nous sommes responsables. Et je dois admettre cela. En tant que parent, j'ai dû passer à travers ce processus et me dire, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai cette responsabilité, pas mon église. On a connu le même genre de choses avec Rachel. On allait dans une église et on disait, mais pourquoi nos enfants ne sont pas bien enseignés? Pourquoi l'école du dimanche ne fait pas son travail? Pourquoi le pasteur ne fait pas son travail avec nos enfants? On a changé d'église, on est allé dans des églises plus grandes. On se trompait. La responsabilité d'enseigner nos enfants est la nôtre en tant que parents. nous devons encourager, nous, Église, dans nos églises, encourager les parents, les motiver et les fortifier dans ce rôle d'enseignant. Nous devons être là pour les supporter et les aider. Deux éléments importants, la proclamation ou l'incarnation. On en a parlé hier, un petit peu dans nos études. En tant que parents, quand nous entendons cela, nous, on peut être effrayés, on peut être perturbés en se disant « Mais pourquoi c'est à moi de faire cela ? Qu'est-ce qui fait que ça devient ma responsabilité ? Est-ce que j'ai les capacités pour le faire ? Est-ce que j'ai reçu un enseignement suffisant pour le faire ? Comment faire face à cette tâche ? La réponse, elle est malheureusement très simple. Les enfants apprennent ce qu'ils vivent. Les enfants apprennent ce qu'ils vivent. Nous avons regardé ensemble, en famille, il n'y a pas très longtemps, ce film qui est tiré cette image est tirée du film Oliver Twist de Charles Dickens. On y voit un orphelin, pieds nus et chétifs, rassemblés dans leur cantine. Ils vont recevoir le seul repas de leur journée, une espèce de bouillie insipide, sans goût. Et pendant ce temps-là, juste à côté, on ne le voit pas sur la photo, mais les gardiens vont, eux, se gaver. Ils vont avoir un repas magnifique. Et pourtant, la partie la plus frappante de cette image, c'est ce qu'on voit au fond, là-bas. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que ces paroles sont vraies ? Oui, elles sont vraies. Dieu est amour. Est-ce que vous croyez que ces enfants, quand ils vont vivre cette situation, ils vont se dire que Dieu est amour ? Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont croire ? Mes frères et sœurs, peu importe la façon dont nous proclamons la parole de Dieu à nos enfants, dans nos églises, dans nos clubs d'enfants, nous devons réfléchir à ce qu'ils vont croire. Nous pensons que les enfants vont plutôt croire ce qu'ils voient dans la vie de tous les jours, la foi en action, la foi vivante, la foi vécue. Parce que l'incarnation l'emporte sur la proclamation. Parce que l'incarnation l'emporte sur la proclamation. Le mot « incarnation » signifie littéralement « prendre corps ». Dieu est devenu un homme, il s'est fait chair, il s'est fait corps, il a partagé ce repas avec nous et nous a laissé une trace de cela. L'évangile de Jean nous dit, dans Jean 1, au chapitre, Jean 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu un homme, il a vécu parmi nous, plein de grâce, de vérité, nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. » Le christianisme, mes frères et sœurs, n'est pas une religion où on va parler de nobles idéaux ou de législateurs lointains. Le Dieu de nos ancêtres est quelqu'un que nous avons vu, que nous avons touché, que nous avons entendu. Le Père nous l'a révélé. 1 Jean 1, versets 1 et 2, « Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui vous a été révélée. Nous vous annonçons la vie éternelle. » Il n'est pas étonnant que la plus grande hérésie de l'histoire de l'Église a été d'attaquer cette doctrine de l'incarnation. Mes frères et sœurs, Satan déteste que Dieu soit devenu chair. Satan déteste que Dieu soit devenu chair. Il déteste aussi que des familles soient en bonne santé, parce qu'elles servent de témoignage. Elles servent à l'unité de nos Églises. Elles servent à cet amour que Dieu nous a laissé au travers de sa Trinité. Alors si vous voulez faire grincer des dents Satan, fêtez vos 50 ans de mariage, partagez des moments en famille, dans votre église, vivez des choses ensemble autour d'un bon repas. Satan n'a pas peur d'une religion qui peindrait simplement des lettres sur un mur de pierre ou même qui prêcherait un sermon. Ce qu'il craint, mes frères et sœurs, c'est que cette parole devienne la chair dans le contexte de vos foyers. Un foyer qui honore Dieu, au sein d'un couple ou d'une famille qui honore Dieu. Ça ne veut pas dire être parfait. Je suis loin d'être parfait. Nous sommes loin d'être parfaits. Mais c'est avec nous que les enfants vivent chaque jour. C'est avec nous que nos enfants vont être exposés à leurs premières difficultés, à leurs premières relations, au premier contact. C'est avec nous qu'ils vont partager cette première difficulté. Mes frères et sœurs, je vous invite à écouter la précieuse stratégie que notre Père nous a laissée. Cette précieuse stratégie, on la trouve dans Deutéronome 6, versets 6 à 9. Deutéronome 6, versets 6 à 9, ou 5 à 7. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu n'en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long de la route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Dans ce passage, nous lisons que le point de départ doit être notre amour pour Dieu. C'est la valeur de base de notre vie, notre relation personnelle avec Dieu. Cet amour doit être un amour complet, entier, un amour qui est dans nos cœurs, qui est répandu dans nos vies, dans les profondeurs de notre âme, et qui est répandu de toute notre force, et qui est répété, répété, répété. Si cet amour n'est pas le premier dans nos vies, si cette relation avec Jésus n'est pas la première dans nos vies, et qu'on le considère comme une pièce rapportée de notre existence, comme quelque chose que l'on vit le dimanche, alors rien ne transparaîtra dans nos vies. Et nos enfants ne comprendront pas le message. Si notre amour pour Dieu est profondément enraciné, que c'est une seconde partie de notre existence, que c'est une seconde nature pour nous, on va naturellement parler de Dieu à eux. On va leur faire partager ce qu'on ressent avec lui. Le matin, le soir, quand on se lève, quand on se couche, quand on est dans la voiture, tout le temps, l'amour pour Dieu ne sera plus un spectacle que l'on présente, mais une vie que nous vivons avec lui, cette relation personnelle que l'on aura avec lui. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose que nous faisons ou que nous connaissons, mes frères et sœurs. Quand Dieu m'a touché il y a 20 ans, je ne le connaissais pas. Je n'avais pas entendu parler de lui. Mais c'est quelqu'un que nous aimons. C'est lui que nous aimons. C'est ça la précieuse stratégie. C'est ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Cet amour infini qu'il nous a donné. Les enfants veulent voir plus, mes frères et sœurs. Ils veulent voir plus de foi chrétienne vécue dans nos foyers, de témoignages vivants que nous sommes. Jean dit, dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, « Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. » Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Cette communion personnelle que nous avons avec lui, cette vie personnelle que nous avons avec lui. Jean nous dit, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé, nous l'avons touché. Quand il proclamait l'Évangile, quand il parlait personnellement de ce qu'il avait vécu, le but était l'unité entre eux, avec le Père et son Fils. Notre but en tant que parents est l'unité avec nos enfants, l'unité avec Dieu. Et le moyen d'accomplir cela est de communiquer dans la vraie vie de tous les jours, de parler de ce que nous avons vu et entendu, de la manière dont Dieu nous a touchés. Je ne suis pas parfait. Je me dispute avec mon épouse. Je me dispute avec des collègues. Quand est-ce que je leur demande pardon? Quand est-ce que je montre à mes enfants que je leur demande pardon? Cette vie de tous les jours que nous vivons avec eux, ce que je dis vécu dans ma vie, c'est notre relation avec Dieu qui est le point de départ. Et c'est difficile à faire. Parce qu'on est submergé dans notre vie, parce qu'on a tellement d'autres choses à faire, que ce n'est pas notre priorité. Et notre famille est délaissée. Ma famille a été délaissée parce que je n'avais pas fait ce choix, parce que je laissais cette responsabilité à l'Église. Alors nous avons développé hier avec les parents un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments. C'est ce qu'on a appelé du concret du côté des familles. Le parfum d'une famille, la boussole d'une famille, les rendez-vous famille, l'arôme d'une famille. J'aimerais juste prendre un exemple et le partager avec vous ce matin. C'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament au travers des Juifs. Dans l'Ancien Testament, il existait de nombreux exemples expliquant comment les familles israélites transmettaient cette foi et expliquaient cette foi à leurs enfants. Dieu les dirigeait dans cette tâche. Une chose qu'il faisait pour expliquer cette foi, c'était qu'il laissait des tas de pierres. C'est ce qu'on a appelé ici les tas de pierres. Il laissait des tas de pierres. À chaque fois qu'ils passaient devant ces tas de pierres, ils expliquaient ce qui s'était passé. Ils partageaient avec leurs enfants. Ils racontaient l'histoire. Mais ils racontaient aussi la bienveillance de Dieu à leur égard. Cet amour que Dieu avait pour vous. Et grâce à cela, cela leur permettait de discuter, de partager, de vivre cette foi ensemble. Combien de fois nous vivons des choses dans nos vies et nous oublions de les raconter à nos enfants. Nous oublions de partager ce témoignage merveilleux, cette chose merveilleuse que nous avons vécue avec Dieu. Cela nous rappelle notre relation avec lui aussi. Alors vous me direz, l'Église dans tout cela? Bien sûr que l'Église est importante. On l'a entendu ce matin, c'est la famille. C'est là où tous les frères et sœurs se réunissent d'une seule voix et chantent, partagent, vivent cette voix communautaire. Mais on a l'impression que l'Église doit rassembler aussi les familles. Elles doivent encourager les familles, les équiper, les motiver. C'est un partenariat qui doit exister. Même Dieu, dans la manière dont il présente l'Église, il associe cela au modèle de la famille. Car l'Église est la fiancée, l'épouse du Christ. Elle est unie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous qui formons en son sein des frères et sœurs. Nous qui formons en son sein des frères et sœurs. Alors oui, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un modèle structuré sur la famille. Alors en ces jours où nos gouvernements en France ou ailleurs, en Suisse peut-être, veulent dénaturer ce modèle de la famille, veulent changer cette boussole que Dieu a créée dans nos vies, rappelons à nos enfants, à nos familles, que c'est le modèle que Dieu a créé. L'Église doit enseigner les parents et les aider à comprendre cette parole. Elle doit équiper les familles, leur donner des outils, les former bibliquement, les encourager, les motiver, être à l'écoute des difficultés, partager ensemble. Mais des églises fortes ne seront fortes que si en son sein, il y a des familles fortes. Des églises fortes ne seront fortes que si en son sein, il y a des familles fortes. Des familles unies, des familles où la parole de Dieu est vécue chaque jour. Et Dieu a un plan pour nos églises. Il a un plan pour nos familles. Il a un plan pour nous, mes frères et sœurs. Ce plan, c'est que sa parole de Dieu soit vécue dans nos familles. Que nos églises l'adorent et l'aiment de tout leur cœur. Mais pour ça, il faut être courageux, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas facile. Courageux parce que nous sommes démotivés. Et c'est rigolo parce que cette petite image, c'est Zacharie qui l'a fait avec des pâtes. Il mangeait sa soupe et il a dit, mais papa, regarde, j'ai écrit courage. Et ça m'a encouragé moi-même aussi à réfléchir à cela. Pour dire pourquoi il a écrit courage sur son bol de soupe. Parce que peut-être il savait que c'était difficile pour nous. Parce qu'il savait qu'en rentrant du travail, on était fatigué. Qu'on n'avait pas envie de le faire. Qu'on n'avait pas envie de leur expliquer comment s'était passée notre journée. Alors j'ai trouvé que c'était quelque chose que je voulais partager avec vous, ce courage. Parce qu'il faut qu'on soit courageux, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit courageux pour apprendre à nos enfants à aimer le Seigneur. Parce que nous sommes des exemples vivants. Chaque chose que nous faisons, chaque attitude que nous avons, nos enfants sont le miroir et le reflet de ce que nous vivons. Parlons-leur de Jésus. Montrons-leur dans nos vies ce qu'il représente. Montrons-leur que le bonheur que Satan leur promet à travers le monde, nous l'avons trouvé en Jésus. Montrons-leur notre témoignage dans nos vies de chaque jour. Soyons courageux et méditons longuement sur notre responsabilité à l'égard de nos enfants, ce trésor que Dieu nous a confié. Quand je pense à ça, je pense à un jour où je devrais me retrouver devant le Seigneur et où je serai jugé sur ce que j'ai fait, sur ce trésor qu'il m'a confié. Est-ce que je veux qu'il m'appelle bon et fidèle serviteur ? Parce qu'il m'a confié un trésor que j'ai fait fructifier. Ma responsabilité n'est pas de convertir mes enfants. Ma responsabilité n'est pas de leur dire qu'ils doivent appartenir au Seigneur. Ma responsabilité est de leur parler de cette vie avec le Seigneur. Après, c'est lui qui décidera de tout. C'est lui qui sera le décideur final de cette grâce, qui touchera ou pas mes enfants. Mais je sais que ce trésor qu'il m'a confié, je leur ai fait fructifier. Et soyons courageux, n'oublions pas la merveilleuse promesse qui découle de cela. Dans le Deutéronome 5, au verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Marchez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a montré. Alors vous resterez en vie, vous serez heureux et vous vivrez longtemps dans le pays que vous allez posséder. Il est vrai que parfois nous pouvons être remplis de crainte, d'amertume, de déception, de voir cette responsabilité qui pèse sur nos épaules. Prions pour nos enfants, afin que Dieu accomplisse son œuvre dans leur cœur et qu'il leur montre cette grâce. Mes frères et sœurs, qui nous trouvent fidèles dans la tâche qu'il nous a confiée auprès de nos enfants. Des familles fortes pour des églises fortes, voilà ce dont nous parlons. Mais aussi des églises fortes avec des familles fortes. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, chers grands-parents, n'oublions jamais que notre devoir est de semer et d'arroser, mais c'est Dieu qui fait germer et qui fait croître. Alors, mes frères et sœurs, lorsque le temps de la récolte viendra, le semeur et le moissonneur se réjouiront ensemble. Amen. Je vous invite à prendre un temps de réflexion sur ce que je viens de vous dire et à écouter une chanson qui parle de cette relation entre un père et son fils. Ce que le père pense de son fils, mais aussi ce que le fils pense de son père.